Israël en leur disant, voilà, je vous annonce ceci. Et il s'est adressé non pas à un peuple, mais à une ville. Ce n'était pas courant comme message. Alors il s'est adressé à une petite ville qui est à peu près, à l'époque, je dirais même aujourd'hui, de la taille de Guidel ou de Kevin, pour vous donner une ordre d'idée. Alors imaginez qu'on s'adresse à Kevin ou à Guidel. Et le prophète Michée dit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi qui es petite parmi les milliers de villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus était né à Bethléem, en Judée. Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1. Au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite parmi les villes de Juda, parmi les principales villes, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et puis, le texte que nous avons lu tout à l'heure en introduction, il y avait à Jérusalem, 8 jours après la naissance de Christ, à Bethléem, un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Nuit de Noël n'est lieu. On ne sait pas à quel moment, vraisemblablement au printemps, puisque les bergers étaient dans les pâturages. Donc, je doute que les bergers soient sortis avec leurs troupeaux un 25 décembre. Même en Palestine. À cette première nuit, 500 ans avant, le prophète Michée s'adresse à Bethléem en lui disant « Voilà, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. » Et il dira « À venir. » Tous les sages d'Israël savaient que le Messie devait venir à Bethléem. Dieu s'est plu à révéler ce qui était caché pour que les hommes se préparent à le recevoir. Toi qui es petite, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé. C'est-à-dire qu'il est en train, Michée, d'annoncer la venue de quelqu'un qui préexistait depuis l'éternité, à savoir la parole de Dieu, la parole créatrice. C'est un mystère, c'est une folie. C'est peut-être pour ça aussi que les sages d'Israël ont enregistré l'information. Et je dirais que les sages d'Israël sont comme l'administration française. Ils l'ont mis dans un tiroir, le tiroir, ils l'ont mis dans une armoire, et l'armoire, ils l'ont mis au fond d'un hangar, et ils ont dit, on verra ça plus tard. Je suis en train de chercher des documents d'il y a 40 ans pour faire valoir certains droits au niveau hospitalier par rapport à l'association où je travaillais. Ça fait 4 mois que je cherche des documents que je ne trouve pas. Même un acte de propriété, on ne le trouve pas. Ça fait seulement 40 ans. Là, ça fait 500 ans que les Juifs ont reçu cette promesse, notamment avec le prophète Ésaïe aussi, que le Messie allait venir. De toi sortira. De toi sortira celui dont l'origine remonte au lointain passé. Cette promesse, Michée l'a lancée comme une bouteille à la mer pour répondre à l'attente et à l'espérance d'Israël. Israël avait reçu des promesses par Abraham, par Jacob, par les prophètes, mais au fil du temps, je dirais que leur attente s'est émoussée. Alors parfois on peut se dire, si on avait été à leur place, qu'est-ce que nous aurions fait ? Moi j'aurais vendu ma maison, puis j'aurais acheté une résidence sur Bethléem, en me disant, puisque c'est là, autant s'installer là et attendre. Mais quand je regarde dans ma vie d'homme, je me dis que parfois, les promesses que Dieu m'a faites, il m'est arrivé aussi de les déposer dans un coin et de ne plus attendre impatiemment qu'elles se réalisent, de les oublier un petit peu. Et c'est dans la nature du cœur de l'homme. Dieu dit, voilà ce que je veux faire pour toi et dans ta vie. Dieu nous dit, voilà ce que je veux faire dans ce monde. Et l'homme met cela de côté et vit sa vie d'homme. Et toi ? J'aime bien ces deux petits mots qui commencent dans la prophétie de Michée. Et toi ? Sous-entendu, j'ai parlé aux autres, mais et toi, Bethléem ? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben vous savez, à Bethléem, ils ont fait comme les autres. Le jour où Marie et Joseph sont arrivés, il n'y avait pas de place. De la même manière que dans notre vie, on peut vivre notre vie sans qu'il y ait plus de place que cela, même en étant chrétien. On est sauvé, pour certains d'entre nous. On a accepté le salut de Christ. Mais est-ce qu'on lui fait de la place pour qu'il devienne Seigneur ? Le fait de passer du statut de sauveur à Seigneur dans notre vie, c'est tout un cheminement. Un cheminement qui consiste à lui faire de la place. À lui dire, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? De quoi je peux me libérer pour te faire de la place ? Je parlais avec Michel cette semaine et je disais par rapport à un disque, un CD, on parlait avec autour d'un repas d'un CD de musique celtique, et je disais, mais tu l'as, toi, celui-là, c'est Le Voyage de Brandan. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de culture celtique, Le Voyage de Brandan, c'est une symphonie celtique qui a été créée en 1983 par un homme qui s'appelait Sean Davis. C'est une magnifique symphonie qui raconte l'histoire d'un moine qui part, qui traverse la mer pour aller de Bretagne en Irlande pour évangéliser l'Irlande, Brandan. Oui, il ne prend pas un bateau, il voyage, il traverse la mer dans une auge en pierre, en granit. Bon, vous savez que le rail de Wesson, c'est un peu compliqué. S'il avait été heurté, il se disait peut-être qu'il serait sauvé. En tout cas, c'est Le Voyage de Brandan. Et je dis, tu l'as ce CD-là ? Il me dit, oui, je l'ai eu, mais il est dans mon grenier. Et je dis, mais tu pourrais le trouver ? Il me dit, non, c'est impossible. Je dis, pourquoi ? Mon grenier est plein, mais il est plein de quoi ? De carton. Et le CD est là-dedans. Il n'y a plus de place pour ajouter quoi que ce soit. Donc le CD, on ne le retrouvera jamais. Je dis, tu veux pas que je vienne ? Non, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que parfois dans nos vies, nos cœurs, notre être intérieur est rempli de plein de choses qui sont liées au passé? Dans le grenier de Michel, j'en profite, je l'ai renvoyé chez lui ce matin parce qu'il avait 39 de fièvre. J'en profite, je vais le dénoncer. Il a récupéré les affaires de ses parents, de ses grands-parents, etc. Enfin bon, son grenier est plein. Mais dans nos vies, il y a tellement de choses anciennes qui nous encombrent. Des blessures d'hier, d'autrefois. Une estime de soi qui peut être fortement altérée parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées et qui ont cassé, qui ont brisé en nous l'image que Dieu a de nous et qu'il voudrait nous voir prendre en compte. Il y a des paroles qui ont été dites et qui ont cassé cela. Et puis il y a parfois des paroles qui n'ont jamais été dites. Combien de patientes m'ont dit, dans mon parcours avec elles, dans mon travail, ma mère m'a jamais dit je t'aime. Ça, c'est des paroles qui manquent. Des gestes qui n'ont pas été faits. Et cela, c'est des cartons qui sont dans notre vie et qui prennent de la place. Comment faire en sorte que Christ vienne nous libérer toutes ces choses? Et toi? Et toi, Jean-Marc? Toi, Jean? Toi, Maurice? Et toi? Et toi? Et toi? Est-ce que tu es prêt, même si tu es petite? Toi qui es petite, parce que Bethléem disait, oh, mais nous, qu'est-ce qu'on va aller accueillir le futur Messie, la promesse de Dieu chez nous? On s'appelle Kevin. À côté, il y a Lorient, il y a la Nestère, il y a Pontivy, il y a Rennes, il y a Nantes. Qu'est-ce qui peut se passer dans mon Kevin à moi? Qu'est-ce qui peut se passer dans ma vie? Je suis tellement petit, tellement insignifiant. Une patiente me disait un jour, connaissant ma foi, on était dans un groupe de partage spirituel, elle me disait, oui, mais vous, ce que vous êtes est tellement précieux, vous avez tellement de qualités. Je disais, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Je comprends que Dieu ait fait des belles choses dans votre vie. Ouais, c'est pas faux. Mais moi, je ne vaux rien. Je ne vaux rien, je suis insignifiante. Ah, j'ai ah bon, ah ouais, ah, vous croyez? Je dis, bah oui. Je lui avais donné cet exemple. Dans un magasin, comment est-ce qu'on connaît la valeur de quelque chose? On réfléchit, c'est simple. Grâce à l'étiquette qui est marquée dessus, on connaît sa valeur. Ah. Quelle est la valeur que j'ai, moi? Le prix qui a été payé ou qu'il faut payer pour moi? Jésus-Christ, ni plus ni moins. Quel est le prix que Dieu a payé pour toi? Jésus-Christ, ni plus ni moins. C'est le prix qu'il a payé. Mais je suis trop petite parmi les autres villes, je suis trop petit par rapport aux autres, à un tel dans l'Église ou à un tel dans ce monde. Le prix qui a été payé par Dieu, c'est la naissance de Christ et sa mort sur la croix. Alléluia. Alors, ce message adressé à Bethléem, il est resté sur la table pendant plusieurs centaines d'années. Vous savez que le prophète Michée est un livre que l'on lit pendant l'année liturgique juive. Ces passages-là sont lus tous les ans, au moins une fois. Tout Israël connaissait cette parole et s'est resté de côté. Aujourd'hui, Dieu parle au travers des évangiles en nous annonçant la naissance de Christ. Est-ce que nous cherchons? Parce que l'histoire de Noël, c'est éminemment une question de recherche. Et ensuite, d'un Dieu qui se révèle et d'hommes et de femmes qui vont trouver ou ne pas trouver. Mais Noël, c'est une question de recherche. Le récit que nous avons lu, c'est un récit qui est un peu iconographique. les mages qui viennent à Bethléem. Que sont ces mages d'Orient ? Il est dit que ce sont des personnes qui scrutaient le ciel. Est-ce que c'était en Turquie ou en Iran ? En tout cas, ils étaient éloignés. Et ils cherchaient. Ils cherchaient en scrutant le ciel et en essayant d'y discerner un message, ce qui pouvait être bon pour eux et pour leurs contemporains. Astrologue, astronome, un peu des deux peut-être, savant, certainement. Mais en tout cas, des hommes qui cherchaient. On ne savait pas, si, on ne sait pas s'ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar, s'ils étaient trois. Si aujourd'hui leurs restes sont conservés dans la cathédrale de je ne sais plus quel pays de la ville d'Allemagne, selon la tradition, mais ce sont des hommes dont il est dit qu'ils cherchaient. Et c'est vraiment une des caractéristiques que Dieu attend de l'être humain. Dans un des psaumes, il est dit que Dieu se penche et cherche s'il y aura des hommes intelligents. Quand il dit des hommes, c'est un terme hébraïque qui dit hommes et femmes. Je ne voudrais pas que les femmes se sentent exclues. Dieu se penche sur la terre et regarde s'il va trouver des hommes et des femmes intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser aussi leur intelligence pour se questionner sur le sens et la place de Dieu dans leur vie. Est-ce que nous sommes intelligents ? Ces hommes-là, c'était des savants, même s'ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Et ils ont cherché. Et à un moment donné, ils ont vu un léger signe. Vous savez, je ne sais pas, quand est-ce que vous avez regardé pour la dernière fois un ciel étoilé et que vous avez scruté le ciel ? Finalement, ça fait partie du paysage, donc on ne les regarde pas forcément. Eux, ils ont scruté pour voir un signe. Et dans votre vie, il y a eu des signes, donc comme dans la mienne. Des signes d'un Dieu qui dit, est-ce que tu peux suivre ce signe-là pour qui te conduira à moi ? Ce signe, c'est d'abord l'étoile du matin. C'est un des titres du Messie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'étoile du matin, c'est Christ. Est-ce que cette étoile-là, tout à coup, elle nous interpelle, elle nous dit, mais tiens, et si je mettais mon intelligence en action pour savoir ce qu'il est vraiment. Non pas ce qu'il est dans ce monde, dans l'histoire, dans la vie de mes proches, mais pour moi. Est-ce que je peux faire le choix de faire ce chemin-là et de me mettre en position de recherche ? Ces mages, il est dit qu'ils se sont mis en route et ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez fait pour rencontrer Dieu. Mon témoignage à moi, c'est que je vivais dans une cité HLM très défavorisée et que personne n'était chrétien et que au deuxième étage dans le HLM où j'étais, il y avait trois jeunes qui allaient dans un groupe de jeunes et qui m'ont dit, toi, dès que tu as 15 ans, qui est l'âge minimal pour aller au groupe de jeunes de notre église, on t'invite. Et ils l'ont fait. Et ça a été pour moi comme un signe, une étoile qui s'est levée, une lumière qui est venue dans mes ténèbres. Je vous assure que de vivre dans les cités HLM en France de manière abandonnique ou abandonnée, c'est quelque chose de terrible. Et il y a la lumière qui est entrée et je me suis mis en recherche. Quelle est la recherche que vous avez faite ? Est-ce qu'elle était aussi longue que celle de ces mages qui se sont dit « Nous, on ne la quitte pas des yeux, on va aller jusqu'où elle nous conduira ?» Ou bien est-ce que c'était quelque chose de rapide, de bref et de facile ? Tous nos chemins sont différents. L'important, c'est qu'est-ce que je fais pour me mettre en recherche. Là, les mages sont allés sur la route. Alors, on imagine des chameaux, des ânes, des chevaux, je ne sais pas. En tout cas, ils avaient des bagages, donc ils devaient être équipés, et puis la route était longue. Et ils ont quitté le confort de leur statut de savant, d'être intelligent, bien positionné peut-être dans leur société. Ils ont abandonner le confort pour se mettre sur la route. Il y a un lâcher-prise à avoir pour suivre Dieu. À un moment donné, je dirais même, il faut lâcher prise, une des premières choses, c'est son aspect rationnel et intelligent qui domine en nous. Ne plus être rationnel, se dire, il y a peut-être quelque chose de plus important que ce que je touche ce que je vois, ce qui est visible. Est-ce que cela, ça peut être quelque chose d'important pour moi? Il y a quelques mois, je disais, je raconte ça, il y a un de mes nouveaux voisins qui est médecin, sa femme est médecin, ils viennent d'emménager, et puis ils m'interpellent souvent sur des choses qu'ils me questionnent. Et un jour, en plein milieu de la rue, il me dit, t'es pasteur? Je dis, oui. Il me dit, mais alors, explique-moi comment Dieu a pu créer l'univers dans lequel nous sommes. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu me poses la question? Il me dit, mais en tant que médecin, j'ai fait des études de médecine. J'ai étudié le corps dans ses moindres détails. Il dit, je ne peux pas imaginer que ce soit le fruit du hasard. Il y a forcément une puissance plus grande qui a créé ce miracle-là, ce que nous sommes. Au milieu de la rue, j'ai trouvé ça étonnant. Il cherchait, alors je ne sais pas jusqu'où le conduira sa recherche, mais il a cherché et il cherche encore. Alors je lui ai donné. Irina m'avait rendu un bouquin que je lui avais prêté sur le corps humain et sur le lien avec la vision qu'on peut avoir de Dieu. Je lui ai repassé, tu vois. Comme Irina venait de me rendre, enfin, elle me l'a rendu il y a quelque temps, il n'était pas trop enseveli sous les tonnes de livres qu'il y a à la maison. Il était juste, alors je suis rentré, je l'ai pris, je lui ai traversé la rue, je lui ai donné. Voilà. Si ça peut t'aider dans ta recherche. Ces mages se sont mis en recherche. Est-ce que nous sommes en recherche? Est-ce que nous sommes toujours, y compris quand nous avons trouvé Christ, nous nous sommes mis en route? Est-ce que nous continuons à être des hommes et des femmes en recherche? J'aime cette formule qui dit « Ce que Dieu aime » dans le psaume que je citais tout à l'heure, c'est des hommes et des femmes qui cherchent. Méfions-nous de ceux qui trouvent. Parce que quand on a trouvé, on s'installe et on attend la mort. On se dit, oh, on a trouvé, tout est bon, tout est clair, etc. Non, est-ce que nous continuons à être des hommes et des femmes en recherche de Dieu? Les mages se sont mis en route, et puis en cours de route, ils sont fait rattraper par leur aspect rationnel. Ils se sont dit, voilà, nous ce qu'on a perçu, c'est qu'on allait à la rencontre du roi des Juifs. Jérusalem. Et à Jérusalem, il faut qu'on trouve le nom de la rue ou du boulevard où il y a le palais du roi. Et une fois qu'on sera là devant, on rentre dedans, et normalement, le roi des Juifs, il doit être à l'intérieur, puisqu'il doit naître. En cours de route, ils ont fait fausse route. La rationalité les a rattrapés. Ils ont perdu même du regard l'étoile. Est-ce qu'elle était partie? On ne sait pas, mais en tout cas, elle ne la suivait plus. À un moment donné, à proximité de Jérusalem, boum! On va au centre-ville, on voit le palais du roi, et là, on demande où est né le roi des Juifs. Bethléem est à environ 6 à 8 kilomètres de là. Mais ils ont eu. Parfois, on peut perdre du regard la lumière que Dieu place devant nous, et que nos regards, tout à coup, s'attachent à des choses qui nous semblent évidentes, rationnelles. Et on perd du regard cette lumière que Dieu place devant nous, à savoir Christ. Alors, vous connaissez l'histoire, Hérode accueille ce groupe de mages et puis eux lui posent cette simple question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il rentre dans le palais du roi et du monarque régnant, et pas n'importe lequel. Hérode était un sanguinaire qui avait fait tuer deux de ses frères, une de ses belles-sœurs, un propre enfant, donc ce n'était pas un petit plaisantin. On connaît à l'heure actuelle des hommes qui ont un petit peu ce type de comportement, à vouloir tuer leur prochain. Et ils arrivent avec cette question, où est le roi des Juifs? Vous imaginez la réaction d'Hérode? D'abord, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Alors, ici, le texte dit en grec, il fut troublé. Mais c'est plus que ça, il fut bouleversé. Il y a quelqu'un qui veut prendre ma place. Oui, effectivement, Hérode. Il y a quelqu'un qui veut prendre ta place, qui veut dominer dans la vie et dans le cœur des hommes, mais pas comme toi et pas au sens politique du terme. Il est quelqu'un qui est annoncé depuis plusieurs centaines d'années, qui est la promesse même qui a été faite à Adam et à Ève au jardin d'Éden, quand Dieu a regardé Adam, Ève et le serpent devant lui, il s'est adressé à Ève et lui a dit, « Voici, ta descendance écrasera la tête du serpent, même si le serpent lui blesse le talon. » C'était une annonce déjà de la mort et de la résurrection. Bien sûr, le serpent, Satan, a réussi à tuer Jésus sur la croix, mais au bout du troisième jour, alléluia, il est ressuscité. Il n'a fait que le blesser au talon parce qu'il était le prince de la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà celui que cherchent ces mages. Voilà ce que Israël attendait et était censé chercher et attendre. Alors, Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le futur roi ou ce Messie, le Christ. D'ailleurs, vous voyez que dans le texte, il est dit « Où était le Christ ?» Le Christ, c'est simplement la traduction en grec du mot hébreu « Messie ». Messie et Christ. Quand on dit Jésus-Christ, on est en train de dire « Jésus le Messie ». C'est la même chose. Donc, il est bien en train de dire « Où est le Messie qui doit naître ?» Et tout le monde, tous les hommes intelligents disent « Ah, moi je sais, vous savez. » C'est comme dans la classe... quand le professeur pose une question, puis qu'on est un petit peu tremblant, quand on a la bonne réponse, tout de suite, on se dit « Oh, ben moi, madame !» Et là, tout le monde, les scribes, les pharisiens, tout le monde dit « Moi, je sais, à Bethléem !» Tout le monde sait. Dans une semaine, tout le monde saura. Tout le monde fêtera la naissance de Christ. Combien seront ceux qui iront vers lui ? Véritablement, qui passeront ce temps-là à la fois dans la joie de la naissance et de la résurrection de Christ. Tu peux remettre l'image de This is the season, this is the reason. J'aime beaucoup cette image-là qui est parue il y a quelques années, qui parle de la saisonnalité, la couronne de Noël. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, cette couronne de Noël. This is the season. C'est la saison de Noël. Ouais. Et voici la raison pour laquelle il est né. Et l'autre côté, c'est la couronne d'épines. C'est la saison, c'est la raison. Et en fait, ce que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre, c'était que le Messie à venir ne serait pas un roi de ce monde, mais celui qui règne de toute éternité dans les lieux célestes et qui a créé l'univers. C'est ce Dieu-là qui s'est incarné. Alors les mages ont fini par comprendre qu'ils n'étaient pas au bon endroit, même si Hérode leur dit, écoutez, entre nous, hein, retournez-y. Vous êtes... Et lui est capable de dire, bah, c'est pas là, c'est à Bethléem. Je trouve que c'est intéressant. Il les envoya à Bethléem. Vous savez qui a envoyé les mages au bon endroit ? Hérode. Étonnant, non ? Que ce soit celui qui est contre la naissance de Christ qui envoie les mages. Vous savez, le monde a parfois un message très, très particulier. Il dit des choses et en même temps, il entr'ouvre la porte au mystère de Dieu sans le savoir. Regardons dans une semaine ce que diront les journaux télévisés, les télévisions, les reportages. Plein de ces interventions diront « Bethléem, c'est là-bas que ça se passe !» Mais peu iront jusqu'au bout. Autour du Christ, dans cette étable, cette bergerie, il n'y a eu que des bergers, c'est-à-dire, pour la société juive, les gens les plus infréquentables et les plus impurs. Si on était en Inde, on les appellerait les intouchables. Les bergers étaient considérés comme, je le dis souvent, contrairement à l'image d'Épinal que nous avons avec des jolis moutons, des bergers, gardant les moutons l'éveil de la nuit, En Israël, selon la loi, les bergers, c'était ceux qu'on ne fréquentait pas parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à toutes les exigences de la loi en matière de pureté et d'ablution. Ils ne pouvaient pas se laver, faire leurs ablutions, leurs prières, et ils mangeaient même de la viande qui n'avait pas été sacrifiée de manière cachère. Pardon. Tout le monde le savait. Quand un berger perdait un mouton, à l'époque, on mangeait la viande. On n'allait pas à Jérusalem pour faire ou au temple pour le sacrifier, etc., ou trouver un rabbin ou des services religieux, etc. Non, on mangeait. Donc, les bergers, c'était des gens infréquentables, impurs. C'était ceux-là qui sont venus. C'est à ceux-là que Dieu s'est révélé. Tu te trouves peut-être impur, trop petit, etc. Eh bien, bienvenue au club de ceux qui viennent adorer Jésus au moment de sa naissance. Ah, vous me direz, oui, mais il y a les mages. Et ils ne viennent pas n'importe comment. Mais ils se sont plantés. Ils se sont plantés dans leur route. Comme nous, on peut se planter. On peut rentrer dans la route et chercher Christ, et puis en cours de route, tout. On oublie de regarder l'étoile et on prend un chemin de traverse. C'est peut-être ça qui s'est passé dans ta vie. Et Dieu te dit, mais ce n'est pas grave. Mon étoile est toujours là pour te conduire. Christ est toujours présent. Je serai avec vous tous les jours. La promesse de Christ dans notre vie est certaine. Quels que soient les chemins de traverse que nous puissions prendre. Alors, j'aimerais juste terminer avec cette pensée. Lorsque les mages sont arrivés, ils ont apporté des cadeaux. Alors, ils ne sont pas venus les mains vides. Mais ils sont venus avec trois cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, c'est une manière de dire, celui qui est dans cette mangeoire, dans la paille, même si tout semble dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, la royauté sur lui. Rappelez-vous la promesse faite à Bethléem, celui qui dominera sur Israël. Il est là dans cette mangeoire. Oh, certainement que si nous disions au monde, vous savez, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un. Il tutoie les étoiles. Je ne sais pas s'il a fait ou s'il doit le faire, mais je crois qu'il a envoyé une Tesla dans l'espace, une voiture, pour dire, vous voyez, quand même, je suis capable de faire des choses étonnantes. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, une voiture électrique dans l'espace, mais il l'a fait. Et il a prévu plein de choses. Ouais. Est-ce que c'est celui qui dominera sur mon cœur et sur ma vie? Est-ce que ce sont ces puissants-là que je veux voir régner sur moi? Ou bien est-ce que c'est celui qui est né dans le dénuement pour dire, voilà, je viens pour toi, pour me donner. Est-ce que tu veux que je sois ce cadeau pour toi dans ta vie? Je sais bien que nous aurons chacun des cadeaux à Noël, très vraisemblablement. Moi, quand j'ai eu très peu de cadeaux de Noël dans mon enfance parce qu'on était trop pauvres pour en avoir. Mais bon, je ne veux pas vous faire pleurer dans les chaumières, hein, mais vraiment. Puis en plus, comme j'étais l'aîné des 8, ma mère me disait toujours à partir de 7-8 ans, me disant, tu sais, il y a tes petits frères et tes petites sœurs. Donc, eux d'abord. Je dis, ouais, bien sûr, maman. Puis à l'intérieur. Et un jour, à 15 ans, j'ai eu un cadeau. À 15 ans. J'ai eu un poste de radio grand comme ça. C'est génial. J'ai reçu ça à Noël. Ah, j'étais... Pendant les premiers jours, dans ma chambre, sous le drap, j'écoutais la radio, j'écoutais les radios sur les petites ondes, vous savez. Des langues étranges qui venaient de l'autre bout du monde. Je trouvais ça merveilleux. Et puis, les vacances de Noël se sont terminées. Je suis revenu à l'école. Et puis, je crois, 15 jours, 3 semaines après Noël, je suis rentré. Et ma maman avait une triste mine. Elle m'a dit, écoute, je suis désolé, désolé. Puis, je regardais la maison. Il y avait plein de choses qui manquaient. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, les huissiers sont venus. Il nous reste les matelas, la table, les chaises. Tout le restant a été emporté à cause des dettes, de loyers, etc. Et je suis allé dans ma chambre, plus de poste de radio. C'est le seul cadeau dont je me souviens dans ma jeunesse, parce que c'est le cadeau qui m'a été retiré. Ouais. Et vous savez quoi? Cette année-là, ou quelques mois après, j'ai rencontré Christ. Les voisins du deuxième m'ont emmené au groupe de jeunes, et dans l'église, j'ai rencontré ce cadeau qu'est Christ Noël. Ça fait déjà 50 ans. Oui, ça ne le fait pas, je sais bien, je suis d'accord avec vous. Ça fait 50 ans. Et vous savez, en 50 ans, aucun huissier n'est rentré dans ma vie pour me retirer ce cadeau-là. Alléluia! L'or, c'était le cadeau de la royauté. L'encens, c'était le symbole dans l'ancienne alliance des prières qui montent vers celui qui est seul digne d'être prié et adoré. Est-ce que Christ est aussi ce cadeau-là pour nous? Le seul qui est digne d'être adoré, prié. Est-ce que c'est quelque chose? L'encens était mis à brûler tous les jours. Non, nous, c'est juste le dimanche, hein, on est bien d'accord. On élève nos prières que le dimanche, le restant de la semaine, on est beaucoup trop occupé. Est-ce qu'il est vraiment ce cadeau-là? Et puis, la myrrhe, c'était l'annonce, déjà à sa naissance, qu'il allait mourir pour nous. La myrrhe, c'est un des éléments fondamentaux pour l'embaumement des corps. C'est-à-dire qu'au moment de sa naissance, les mages offrent et proclament qu'il mourra. Voilà le cadeau qui nous est fait à Noël. Pas simplement une scène idyllique autour d'un enfant dans une jolie étable, mais un cadeau de Dieu qui va jusqu'au bout. Je voulais juste partager ces pensées afin qu'elles nous accompagnent dans son temps de Noël et qu'on puisse ne pas être seulement dans la réjouissance humaine, mais aussi de ceux qui recherchent Christ, comme les mages, comme les bergers, mais aussi ceux qui le trouvent et qui ont à cœur de rester dans sa présence. Amen. Amen. Je vais demander peut-être à Francine et puis à... On a des rangs qui sont désertés. Bah tiens, Jean-Louis, tu veux bien aller avec Francine pour le service de la scène, le repas du Seigneur? Nous partageons, et je pense que avant Noël, c'est important de partager le pain et la coupe. Alors, vous verrez que ce repas, il est fait en respectant les règles sanitaires, les personnes qui vont servir ont des gants, etc. On